Les Actes des Apôtres, chapitre 14. Paul et Barnabas à Iconium, versets 1 à 7.
Lecture de la parole. Or, il arriva qu'à Iconium, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs, qui ne croyaient pas, émurent et irritèrent les esprits de ceux des nations contre les frères. Ils séjournèrent donc là assez longtemps, parlant hardiment, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, accordant que des miracles et des prodiges se fissent par leurs mains. Mais la multitude de la ville fut partagée, et les uns étaient avec les Juifs, et les autres avec les apôtres. Et ceux des nations, et les Juifs avec leurs chefs, s'étant soulevés pour les outrager et pour les lapider, eux, l'ayant su, s'enfuirent aux villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans les environs, et ils y évangélisaient.
Lecture de l'étude. D'Antioche, Paul et Barnabas allèrent à Iconium. Dans la synagogue, ils parlèrent de telle sorte, est-il dit, qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Par les résultats de leur prédication, nous voyons qu'ils parlèrent sous la puissante action de l'Esprit-Saint qui plaçait devant tous la parole de Dieu. Car la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Il est dit simplement qu'ils crurent. La parole de Dieu s'adresse aux pécheurs pour qu'ils la croient. En la croyant, il croit Dieu. L'homme raisonneur prétend que pour croire, il faut comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut être comprise que par ceux qui croient, parce qu'ils possèdent la vie divine et le Saint-Esprit. Dieu a usé d'une grande bonté envers les hommes en plaçant devant eux sa parole, à laquelle il suffit de croire pour être sauvé. Il savait que personne ne pouvait être sauvé par une œuvre quelconque, ni même en cherchant à comprendre ce qu'il dit, posséda-t-on l'intelligence humaine la plus élevée. C'est pourquoi il met sa parole à la portée de tous, afin que chacun se place devant elle dans l'attitude d'un petit enfant qui croit ce qu'il entend parce qu'il a confiance en celui qui parle. Se voyant rejeté par les sages et les intelligents de ce monde, le Seigneur dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Matthieu 11, verset 25. Tous les petits-enfants ne peuvent pas devenir des sages et des intelligents selon le monde, mais les sages et les intelligents peuvent devenir comme de petits enfants pour croire, et ainsi tous peuvent être sauvés. Voyant les résultats de la prédication de Paul, les Juifs incrédules excitèrent ceux des nations contre les frères. L'œuvre de Dieu ne peut s'accomplir dans le domaine de Satan sans y rencontrer son opposition. Cependant, ils séjournèrent là assez longtemps, parlant hardiment, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, accordant que des miracles et des prodiges se fissent par leurs mains. Verset 3. Le Seigneur était la force de Paul et de Barnabas. C'est lui qui les avait envoyés. Il parlait de sa part, et, par les miracles qu'il leur donnait de faire, il rendait témoignage à la parole de sa grâce qu'ils annonçaient. Les miracles n'avaient pas pour but de convertir ces païens, mais d'accréditer auprès d'eux la parole par laquelle ils pouvaient obtenir le salut. Il fallait cette double opération de la puissance du Seigneur, par la parole dans les cœurs et par les miracles dont ils étaient témoins, pour accomplir l'œuvre de Dieu chez les Juifs qui avaient crucifié le Seigneur et chez les populations plongées depuis plus de 2000 ans dans les ténèbres de l'idolâtrie. Aujourd'hui, le Seigneur n'opère plus de miracles, puisque, dans nos pays, tous possèdent la Bible et se prétendent chrétiens. Mais il faut la puissance de sa parole pour sauver ces chrétiens de nom, car tous ne le sont pas en réalité. À Iconium, tous ne crurent pas. La population de la ville se scinda entre partisans des Juifs et partisans des apôtres. Les Juifs, avec leurs chefs et les gentils, se soulevèrent pour les outrager et les lapider. Mais au lieu d'entraver l'œuvre de Dieu, ils contribuèrent à la propager ailleurs. Les apôtres s'enfuirent aux villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les environs, et ils y évangélisaient versets 4 à 7. Les apôtres à Lystre, versets 8 à 19.
Lecture de la parole. Et il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds qui se tenait assis. Perclus dès le ventre de sa mère, il n'avait jamais marché. Cet homme entendait parler Paul qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il sautait et marchait. Et les foules, ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix, disant en lycaonien, « Les dieux, s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et le sacrificateur du Jupiter qui était devant la ville, ayant amené des taureaux et des couronnes jusqu'aux portes, voulait sacrifier avec les foules. Mais les apôtres Barnabas et Paul l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et s'élancèrent dans la foule s'écriant et disant « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes nous aussi des hommes ayant les mêmes passions que vous, et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous tourniez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, lequel, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie, quoique cependant il ne se soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Et en disant ces choses, à peine empêchèrent-ils les foules de leur sacrifier. Mais des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, et ayant gagné les foules et lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort.
Lecture de l'étude. Parmi les auditeurs de Paul à Lystre se trouvait un homme qui n'avait jamais marché. Pendant qu'il écoutait, Paul fixa les yeux sur lui, et, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il sautait et marchait, versets 8 à 10. En présence de ce grand miracle, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux, s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous !» Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole, versets 11 et 12. On attribuait l'éloquence à Mercure. Les sacrificateurs de Jupiter amenaient déjà aux portes des taureaux et des couronnes pour sacrifier à Paul et à Barnabas. On comprend que ces gens, ignorant le vrai Dieu et voyant des manifestations de puissance qui ne pouvaient provenir de l'homme, attribuassent cette puissance à leur divinité. Les apôtres, apprenant ce que la foule se proposait de faire, déchirèrent leurs vêtements, s'élancèrent au milieu d'eux et leur dirent « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes, nous aussi, des hommes ayant les mêmes passions que vous, et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous tourniez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, lequel, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie, quoique cependant il ne se soit pas laissé sans témoignage, et faisant du bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie, versets 15 à 17. Dans ce bref et merveilleux discours, L'apôtre leur déclare premièrement qu'ils sont des hommes comme eux, quant à leur nature, et non des dieux. S'il dit qu'ils avaient les mêmes passions, cela ne signifie pas qu'ils se laissaient gouverner par elles comme les païens, mais simplement qu'ils étaient des hommes. Il ajoute que le vrai Dieu a créé toutes choses, qu'ils doivent se tourner vers lui et délaisser les vanités de l'idolâtrie. Ce Dieu avait laissé marcher les nations dans leur propre voie. Romains 1, verset 19 à 32. Alors que les hommes l'avaient abandonné pour adorer les faux dieux, derrière lesquels se plaçaient les démons. Voir 1 Corinthiens 10, verset 19 et 20.
Romains 1, verset 19 à 32. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, sa gloire et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce. Mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux, et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés, dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mâles avec mâles, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent.
1 Corinthiens 10, versets 19 à 20.
Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose? Ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons.
Dieu avait appelé Abraham à sortir de son pays et de sa parenté pour se former par sa postérité un peuple qui garda la connaissance de lui-même, le vrai et seul Dieu, et au milieu duquel il voulait habiter. Tant que Dieu avait mis de côté les nations, il ne les avait pas laissés sans témoignage de lui-même. Il leur avait donné des pluies, des saisons fertiles. Il avait veillé à ce qu'elles eussent la nourriture et de quoi réjouir leur cœur. Il est appelé le conservateur de tous les hommes, 1 Timothée 4, verset 10. Psaume 104. Par la bonté de Dieu envers tous et par la création, les hommes auraient dû garder la connaissance de lui-même comme seul vrai Dieu. Maintenant, passant sur ces temps d'ignorance des hommes, comme Paul le dira aussi aux Éphésiens, Dieu les invite à se détourner de leur idolâtrie vers lui. Éphésiens chapitre 17, verset 30.
Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent.
C'est ce que firent les Thessaloniciens. Ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Impressionnés par la guérison de cet impotent, malgré les paroles de Paul, la foule eut peine à ne pas sacrifier. Mais cette exaltation ne dura pas longtemps. Des Juifs, venus d'Antioche et d'Iconium, les excitèrent contre Paul, à tel point qu'ils le lapidèrent et le traînèrent hors de la ville, le croyant mort. La versatilité du cœur de l'homme. Tout à l'heure, les apôtres passaient pour des dieux, et maintenant on les traite comme de vils malfaiteurs, indignes de vivre. Si le cœur n'a pas été touché par la parole de Dieu, les impressions les plus vives sont passagères, elles ne créent aucune conviction. On peut admirer, aujourd'hui, une belle prédication de la parole sans qu'aucun effet salutaire se produise. On a vu les foules dans l'admiration en entendant le Seigneur et en contemplant les miracles qu'il faisait. Et lorsque les chefs du peuple veulent le faire mourir, cette même foule joint sa voix aux leurs pour demander qu'il soit crucifié. L'œuvre à Derbe, versets 20 à 28.
Lecture de la parole. Mais comme les disciples se tenaient autour de lui, se levant, il entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et ayant traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, et ayant annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie, et de là, ils se rendirent par mer à Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Et, étant arrivés, et ayant réuni l'assemblée, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi, et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples.
Lecture de l'étude. Entouré des disciples, Paul eut la force de se lever et d'entrer dans la ville qu'il quitta le lendemain pour aller à Derbe avec Barnabas. Il fallait que le Seigneur le soutînt puissamment pour qu'il pût continuer son service, après avoir été laissé pour mort sous les pierres qu'il avait reçues. Il fait sans doute allusion à cette circonstance lorsqu'il dit en 2 Corinthiens 11, verset 25 « Une fois j'ai été lapidé ». Il rappelle aussi à Timothée les persécutions et les souffrances qu'il avait endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre, de Timothée 3, verset 11, en ajoutant « Et le Seigneur m'a délivré de toutes ».
Mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées, et le Seigneur m'a délivré de toutes.
On peut trouver étrange que le Seigneur permette qu'un serviteur aussi fidèle que Paul passe par de si grandes épreuves qui, à vue humaine, devaient nuire à l'accomplissement de son service. Et l'apôtre avait compris pourquoi le Seigneur agissait ainsi. Lorsqu'il lui fut envoyé une écharde dans la chair, il supplia le Seigneur trois fois pour qu'elle se retirât de lui. Mais le Seigneur lui répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Alors il put dire « Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. » C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. L'œuvre du Seigneur ne peut aboutir que par la force qui vient de lui. Il place ses serviteurs dans des circonstances où leur faiblesse se réalise, tandis que sa puissance se manifeste en eux pour accomplir son œuvre. Lorsqu'un maître engage un domestique, il en choisit un qui jouit d'une bonne santé, parce qu'il ne peut lui communiquer aucune force en vue de son travail. Mais, quand le Seigneur appelle quelqu'un à son service, il lui fournit toute la force nécessaire et le place dans des circonstances qui l'obligent à dépendre de lui. C'est pourquoi l'apôtre dit « Quand je suis faible, alors je suis fort ». Voici le court récit de l'œuvre à Derbe. Ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche, verset 21. Les apôtres n'y subirent probablement pas de persécution comme à Lystre. Si l'épreuve n'est pas nécessaire, le Seigneur ne l'envoie pas. Les souffrances endurées à Lystre ne découragèrent pas ces fidèles serviteurs du Seigneur. Ils retournèrent dans les localités où ils avaient été persécutés pour voir les croyants qu'ils y avaient laissés. Paul ne travaillait pas seulement à évangéliser. Dans chaque localité, les convertis formaient une assemblée de Dieu, objet de ses soins et de son grand amour. Il imitait en cela aussi le Seigneur qui a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Éphésiens 5, versets 25 et 26. En 2 Corinthiens 11, verset 28, où l'apôtre énumère ce qui lui était arrivé durant son service, il termine en disant « Outre ces choses exceptionnelles, il y a ce qui me tient assiégé tous les jours, la sollicitude pour toutes les assemblées. Attaché au Seigneur dans ce qu'il avait de plus cher ici-bas, il aimait tous les chrétiens parce qu'ils étaient les membres du corps de Christ. L'édification de l'assemblée constitue une partie importante de l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Paul et Barnabas retournèrent dans les villes qu'ils avaient évangélisées, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, verset 22. Ces nouveaux chrétiens étaient sans doute exposés aux persécutions et leur foi pouvait en être ébranlée. Ils ne résisteraient à l'ennemi que par la foi qui compte sur Dieu et en se nourrissant de sa parole. Paul comprenait la nécessité de les fortifier et de les exhorter, car si Dieu sauve des pécheurs, ce n'est pas seulement pour qu'ils aillent au ciel, c'est pour avoir sur la terre des témoins de ce que la grâce accomplit en faisant marcher sur les traces de Christ des hommes incapables de lui obéir tant qu'ils resteront étrangers à la vie divine. Puis, outre le témoignage individuel que le chrétien doit rendre, Dieu voulait aussi une assemblée comparé à une lampe qui projette la lumière de Christ dans ce monde. Apocalypse 1, verset 20.
Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et les sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept assemblées, et les sept lampes sont sept assemblées.
Le chrétien est une lumière. Matthieu 5, verset 14 à 16.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Éphésiens 5, verset 8.
Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
1 Thessaloniciens 5, verset 5.
Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.
Les apôtres avertissaient aussi les frères que c'est par beaucoup d'affliction qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. État de choses où les droits de Dieu sont reconnus, comme ceux d'un roi auquel on rend toute obéissance. Mais Si l'on croit en Dieu, si on lui obéit, on rencontre l'opposition de Satan et des hommes, car ce royaume est au milieu d'eux. Il ne change rien à l'état de choses qui caractérise le monde dont Satan est le chef. C'est pourquoi il y a de la souffrance, tandis que, lorsque le Seigneur établira son royaume en gloire, après la destruction de ses ennemis, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, les chrétiens portent l'opprobre de Christ et souffrent pour lui, pendant que le monde cherche des jouissances. Plus tard, les chrétiens jouiront dans la gloire, alors que ceux qui n'ont pas voulu entrer dans le royaume de Dieu auront leur part dans la souffrance. Dans chaque assemblée, Paul et Barnabas choisissent des anciens, et ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru, verset 23. On demande souvent pourquoi on n'établit plus des anciens dans chaque assemblée. Seuls les apôtres le faisaient, grâce à une autorité que nous n'avons pas, et à leur capacité de discerner chez ces nouveaux convertis lesquels pouvaient accomplir ce service. Ils avaient à veiller au maintien de l'ordre et à présenter la parole. Les qualités requises des surveillants ou anciens sont énumérées en 1 Timothée 3, versets 1 à 7, et Tite 1, versets 5 à 9.
1 Timothée 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Et si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Tite 1, versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler, et que dans chaque ville tu établisses des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné, car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants.
Sur l'ordre de Paul, Timothée et Tite devaient en choisir. Aujourd'hui, il n'existe plus d'apôtres pour donner des ordres pareils. Ils n'ont jamais prescrit aux assemblées de se donner des anciens. Si elles trouvent des frères qui portent les caractères d'anciens et qui en accomplissent le service, elles peuvent les reconnaître, mais elles n'ont aucune autorité de la part du Seigneur pour en établir. Les assemblées étaient recommandées à Dieu et au Seigneur, en qui les frères avaient cru, comme nous le verrons au chapitre 20, verset 32, et non à une succession d'apôtres ou d'anciens.
Chapitre 20, verset 32, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. »
À mesure que l'Église s'est affaiblie spirituellement, on a donné une grande importance à ceux qu'elle désignait comme anciens. Plus tard, on leur donna le nom d'évêques, surveillants. Leur importance dépendit de celle de l'Église ou de la localité. Ensuite, on institua des archevêques, établis sur plusieurs églises. Rome étant devenu un centre religieux important, son évêque prit plus tard le nom de pape. Il domine sur toutes les églises qui reconnaissent son pouvoir, savoir l'église romaine, en opposition à l'église grecque qui ne le reconnaît pas. C'est ainsi que tout dégénère si l'on ne demeure pas attaché à la parole de Dieu. Paul et Barnabas revinrent sur leurs pas et, traversant de nouveau la Pisidie et la Pamphylie, ils arrivèrent à Perge, près de la mer, où ils annoncèrent la parole, et de là à Attalie. Il n'est pas dit qu'ils évangélisèrent dans cette ville. De là, ils se rendirent par mer à Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu qui ne leur fit pas défaut tout le long de ce laborieux voyage. À Antioche, ils réunirent l'assemblée et racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ces chapitres 13 et 14 nous font connaître le premier voyage d'évangélisation de Paul, commencement du grand ministère que le Seigneur lui avait confié. Il n'avait pas seulement à annoncer le salut aux nations, mais à annoncer aux convertis qu'il constituait l'Église, ou Assemblée de Dieu, dont chaque croyant est un membre du corps de Christ, la tête dans le ciel. L'assemblée de chaque localité représente l'assemblée universelle dont Christ est le seul chef. Il n'y a dans le monde entier qu'une assemblée dont fait partie chaque croyant. Les fondateurs des églises diverses, indépendantes les unes des autres, ne l'ont pas compris.